Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jocelyne Moussaoupondi. Après un mois de vacances, les élèves ont repris le chemin de l'école. C'est lundi 4 octobre en RDC. Nous ferons le point de ce qu'a été la journée d'aujourd'hui à travers le pays. Toujours pas de consensus entre les 8 confessions religieuses au sujet de la désignation de membres du bureau de l'ASENI. Le MLC les appelle à mettre à profit les dernières heures leur accordées par le président de l'Assemblée nationale. Omar Kavota, directeur exécutif de CEPADO, est notre invité ce soir, à 7 ans après ce qu'il considère comme les débuts des massacres des civils dans la région de Beni. Le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme exprime sa consternation. Bonsoir à tous. Lancement, c'est lundi à Mbujimayi au complexe scolaire Benakabongo de la rentrée scolaire édition 2021-2022. La cérémonie a été présidée par Tony Mwaba, ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en présence de quelques sénateurs et sortissants de Mbujimayi, des plusieurs autorités politiques, militaires, policières, civiles, celles du secteur de l'enseignement, ainsi que des élèves. Tony Mwaba a indiqué que cette année scolaire 2021-2022 est placée sous le signe de la rigueur pour la recherche de l'excellence en vue d'assurer le redressement de l'EPST. Esther Ndalafina nous fait le point.
Déjà autour de 7 heures du matin de ce lundi, les élèves du complexe Benakabongo 1 et 2 étaient dans la cour de l'école pour la rentrée scolaire. Dans son discours, le ministre national a de prime abord remercié les parents qui ont accepté d'envoyer ce jour leurs enfants à l'école. Tony Mwaba a reconnu certains défis liés à la gratuité de l'enseignement au Kasaï oriental.
Le gouvernement est engagé ensemble avec certains partenaires techniques et financiers à pouvoir construire de nouvelles salles de classe, de nouvelles écoles équipées en matériel didactique, en bancs et autres fournitures scolaires.
Suite à la menace de grève lancée par le banc syndical, le ministre fait quelques recommandations aux enseignants.
À titre de gage de bonne foi, le gouvernement a disponibilisé la somme de 40 000 francs au profit de chaque enseignant. Je vous recommande donc de vous concentrer au travail. Je vous appelle donc à la paix. Ne cédez pas à la manipulation, à tous les messages de la haine.
Après ce discours, quelques enseignants ont réagi en ces termes.
Nous apprécions un peu ça. C'est pourquoi vous nous voyez déjà dans la salle de classe.
Nous remercions d'avoir ajouté 40 000. Nous avons les élèves peuplés et que le gouvernement songe à nous.
Pour rendre cette rentrée scolaire effective, l'UNICEF Mbujimayi a remis symboliquement 250 cartons composés de fournitures scolaires et objets classiques à distribuer à 10 000 élèves vulnérables. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, la rentrée scolaire a été timide dans les écoles publiques sur toute l'étendue de la ville de Kisangani. C'est lundi 4 octobre. Si dans les écoles privées agréées, les cours ont eu lieu normalement, il n'en a pas été question dans quasiment l'ensemble des écoles publiques. Quelques-unes seulement à compter du bout de doigt ont ouvert leurs portes. Pour les secrétaires du comité provincial du syndicat des enseignants du Congo Sieko, les enseignants avaient décidé de boycotter cette rentrée depuis jeudi dernier, lors de la tenue de leur assemblée générale. Joseph Litete Bobina explique au micro de Jacques Moukonkolé.
C'est à la suite du mot d'ordre que nous avons lancé pour dire que les enseignants devraient rester à la maison jusqu'à ce que les revendications trouvent un début de solution. Nous avons tenu une assemblée générale le jeudi 30 septembre à l'Etoka. C'est là que les enseignants ont décidé de ne pas observer la rentrée scolaire ce 4 octobre 2021. Les revendications sont les suivantes. Paiement de nombreuses NU des écoles secondaires et quelques NU des écoles primaires. Le paiement du deuxième et du troisième palier, l'uniformisation de salaire. Et puis, on doit aussi réhabiliter les enseignants désactivés.
Mais ces revendications sont tombées un peu tardivement, juste à la veille de la rentrée scolaire. Pourquoi ne l'avoir pas fait bien avant?
Non. Les autorités sont informées. Ce sont des anciennes revendications. Il n'y a rien de nouveau. C'est le cahier des charges des années antérieures que nous avons repris. À la suite de nombreuses promesses, nous sommes dit que l'État pourrait quand même faire quelque chose. Mais jusqu'à mi-septembre, nous avons constaté qu'il n'a rien fait. C'est ainsi que nous avons renforcé le mouvement de grève.
Au Maniema, la rentrée scolaire était effective dans certaines écoles privées, mais timide dans les écoles publiques. C'est ce que nous raconte Florence Kizalunga depuis Kindu.
Après une ronde avec les autorités scolaires, les prophètes adjoints déclarent la rentrée effective avec certaines particularités. Kabouin de Suédi Alain.
La rentrée de ces jours était vraiment effective sur l'ensemble de la province éducationnelle. Signalons toutefois que dans certaines écoles, la rentrée était timide. Elle était timide parce que c'est le premier jour. Il y a de ces élèves qui sont partis en vacances. Il y a aussi certains enseignants qui ne se sont pas présentés. Je ne sais pas si c'est suite de l'appel qui a été lancé par les syndicalistes.
Une absence des enseignants déplorée par les responsables d'école.
Avec l'effectif que nous avons déjà inscrit de 480 élèves, il n'y a que 56 élèves qui se sont présentés. Nous avons 36 enseignants. Ceux qui donnent cours, c'est un seul enseignant.
Le matin, tous les enseignants étaient là et nous avons accueilli les enfants. Et d'un coup, après quelques minutes, j'ai constaté que les enseignants partaient un à un. Et c'est comme ça que je suis resté avec les enfants seuls.
Cette situation inquiète même les élèves.
Nous sommes d'ici, nous les élèves. Les enseignants sont là à l'école, mais ils ne donnent pas les cours. Au moment où nous, les élèves, on a besoin d'étudier.
Même son des cloches du côté des parents.
Je suis venu accompagner les enfants. Les enfants, je les ai trouvés dans les salles de classe, mais je n'ai trouvé aucun enseignant. Très désolé même, parce que jusqu'à 7 heures, les enfants ne sont pas occupés.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, hormis dans les écoles privées agréées, il n'y a pas eu de rentrée scolaire, comme initialement prévu, c'est lundi 4 octobre, dans toutes les écoles publiques de la ville de Goma. Les enseignants ont répondu au mot d'ordre de leur syndicat, les appelant à la grève. Le même spectacle a été observé dans les territoires de Massissi, Nirangongo, Rutshuru et Walikale, où sévit l'insécurité dans certaines agglomérations. Nous faisons le point avec Gabriel Wamenya.
À l'Institut de Goma, l'une des plus grandes écoles publiques non conventionnées, c'est la grève sèche. La haie de l'école était visiblement fantôme ce matin. Aucun chevalier de la craie ne s'est pointé à l'école. Un peu plus loin de là, au collège Mwanga et à l'Institut Biaï, deux écoles pilotes conventionnées catholiques, les décors étaient les mêmes. Tout était calme dans la cour de l'école. Dans les territoires de Nyiragongo où une dizaine d'infrastructures ont été englouties ou calcinées par la lave, la rentrée scolaire n'a pas du tout eu lieu dans les écoles est restée viable après l'éruption du volcan. Les enseignants ont respecté les mots d'ordre de leurs syndicats respectifs, dont les IECO et la Fosinate. Dans les territoires de Rutshuru voisin, la nouvelle société civile affirme que la rentrée des classes n'a pas eu lieu sur l'ensemble du territoire. Enfin, dans les territoires de Massissi et Walikale, c'était le même spectacle dans toutes les écoles publiques. Aucun enseignant n'a répondu à l'appel selon nos sources. Notons qu'à ces décors vient s'ajouter la fermeture de plusieurs écoles dans les groupements d'Oufamando 1er et Ikobo suite à l'insécurité. La rentrée scolaire reste donc hypothétique dans ces deux entités. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
En Ituri, la rentrée scolaire a été effective. C'est lundi dans presque toutes les écoles à Bunia, chef-lieu de la province, qui héberge plus de 20 000 déplacés de guerre. Cependant, plus d'une centaine d'autres établissements n'ont pas ouvert leurs portes, notamment à Komanda et sur l'axe routier Loya-Mambelenga, dont le territoire d'Irumu et dans plusieurs localités, dans les territoires de Djougou à cause de l'insécurité. D'autres écoles ont été délocalisées dans des milieux plus sécurisés, affirment des sources de la société civile. Le point avec Isaac Raymond.
Les rues de Bouni ont été inondées ce lundi matin d'enfants vêtus de bleu et blanc qui se rendaient à l'école. Mais on a noté plusieurs cas d'absence au cours de cette première journée. La cause, certains parents se plaignent du contexte difficile dû à l'insécurité qui ne leur permet pas d'acheter des uniformes et des fournitures scolaires pour leurs enfants. Par contre, dans d'autres entités, les écoles sont carrément fermées. C'est notamment le cas à Komanda où il y avait une dizaine d'établissements scolaires. Ce centre commercial a été la cible d'attaques le vendredi soir des hommes armés, ce qui a entraîné les déplacements de la population. Même décor sur l'axe Komanda-Mambelenga où plus de 35 écoles ne sont pas opérationnelles à cause de l'activisme des rebelles des ADF, affirme le président de la cité civile d'Irumu. Le même constat est fait sur l'axe Bogacha-Biburasi où plus de 20 écoles ne fonctionnent toujours pas à cause des atrocités des ADF. Selon la cité civile de Bahema Boga, 4 écoles de cette zone ont été délocalisées à Boga Centre où les activités scolaires se déroulent normalement. En territoire de Djougou, une trentaine d'écoles ne sont pas également opérationnelles en chefferie de Banyari Kilo, Walendo Pitsi, Mambisa et une partie des Baema Badjere et Baema Nord. Cela à cause des violences du groupe armé Codeco. Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
À Bandunduville, chef-lieu de la province du Kwilu, le lancement a eu lieu au complexe scolaire La Borne par le vice-gouverneur Félicien Kiwai qui, par après, a visité quelques écoles pour se rendre compte de l'effectivité de la dite rentrée scolaire. Le constat est que la rentrée est effective dans les écoles privées. Cependant, dans les écoles publiques, elle est timide car la plupart des enseignants et même des élèves n'ont pas répondu présent. Plus de détails avec Irène Baumin.
C'est l'ambiance ce lundi 4 octobre au complexe scolaire La Borne, une école privée agréée et vend dans la ville de Bandundu. Ici, les activités scolaires ont bel et bien repris dès ce premier jour de la rentrée des classes. Madame Agnès Abata, directrice.
Vous avez observé, la rentrée est effective, il y a les enfants, tout le monde est là, on ne va pas attendre, nous allons démarrer.
La situation est presque la même dans d'autres établissements scolaires privés de la place, notamment au complexe scolaire Saint-José-Maria Escriva. Tandis que dans plusieurs écoles publiques de la ville, visitées ces mêmes jours par le vice-gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai, cette rentrée scolaire est timide. Au lycée Matondo, par exemple, quelques enseignants ont répondu présents, mais seulement avec une vingtaine d'élèves. Au collège Kivuvu, moins de 10 enseignants présents sur les 60 que compte cette école. Félicien Kiwai, qui fait le constat, appelle les élèves et les enseignants à reprendre le chemin de l'école.
Les écoles publiques, jusque-là, sont en train de rêver, mais dans des boîtes privées, nous avons constaté que la rentrée elle est effective et nous avons exhorté les enseignants et les enfants qui traînent encore à la maison de prendre le chemin de l'école.
Il sied de signaler que des salles de classe d'autres écoles publiques sont restées toujours fermées en ces premiers jours de la rentrée scolaire. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Ici, dans la capitale Kinshasa, la rentrée scolaire était effective dans les secteurs privés, mais timide dans les écoles publiques. Dans certains établissements publics, tels que le collège Boboto, les enseignants n'ont presque pas donné cours, bien que les élèves aient répondu présents en cette première journée de la rentrée. Ouvrons à présent le chapitre politique pour dire qu'il n'y a toujours pas de consensus entre les 8 confessions religieuses au sujet de la désignation des membres du bureau de la CENI. Ils n'ont pas siégé ce lundi, faute de compromis. Selon le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'ECC, avec la CINCO, les 2 confessions ont évolué en demandant aux 6 autres de proposer un autre candidat à la succession de Corneille Nanga à la CENI. Mais les 6 ont maintenu leur position d'avant, affirmant que le travail était déjà fait et qu'il suffisait pour la CENI et la CINCO d'y adhérer. Ainsi, un rapport sera incessamment remis au bureau de l'Assemblée nationale par le présidium de la plateforme Confession religieuse pour constater l'échec des négociations. Jeff Ngoy nous parle des points de blocage.
Rappelons que la charte qui régit la plateforme Confession religieuse fixe les règles du jeu. Elle prévoit le consensus pour toute décision, à défaut renvoie au vote transparent. Et c'est ce vote auquel s'en tiennent 6 confessions religieuses contre le consensus prôné par la CINCO et l'ECC, présidium de la plateforme. Selon certains constitutionnalistes, il revient à l'Assemblée nationale de trancher en interrogeant la même charte. Elle devra confronter les procès-verbaux en sa possession ou le seul qu'elle aura reçu des 6 confessions religieuses ayant procédé au vote sans la participation des 2 autres. Mais déjà, on ira aux élections de 2023 sur base d'une contestation de celui qui est appelé à présider la centrale électorale. Le dernier mot reviendra au président de la République, soit d'entériner la décision de l'Assemblée nationale par une ordonnance d'investiture, soit de rejeter carrément, comme ce fut le cas pour Ronsard Malonda.
De son côté, le président du parti Mouvement de Libération du Congo, MLC, appelle les confessions religieuses à se surpasser et à mettre à profit les dernières 72 heures accordées par le président de l'Assemblée nationale en vue de désigner par consensus le futur président de la CENI. Jean-Pierre Bemba l'a fait savoir à travers un communiqué publié ce lundi. Alain Roung revient sur les grandes lignes de ces communiqués.
Dans ce communiqué, Jean-Pierre Bemba exhorte les confessions religieuses à maintenir leur rôle de l'Église au milieu du village pour garantir au pays, à travers leurs choix, la sauvegarde de la paix, de l'unité et de la concorde nationale. Toujours dans ce communiqué, il relève le rôle combien important des confessions religieuses dans le défi de l'organisation des élections apaisées. Il aborde aussi la confiance sans équivoque de l'ensemble de la communauté nationale et internationale aux hommes de Dieu. Le président du MLC poursuit que les crises électorales sont à la base du retard du développement qu'accusent les pays africains. Enfin, il encourage les confessions religieuses à œuvrer pour des élections démocratiques, transparentes et inclusives, afin de permettre aux pays d'atteindre le développement économique et le progrès social.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, 17 associations des jeunes, mouvements citoyens et quelques organisations de la société civile de la ville de Goma dénoncent ce qu'ils qualifient de laxisme des autorités sur ce qui concerne la pénurie d'eau potable dans la ville de Goma. Dans une déclaration rendue publique le week-end, ces organisations pointent du doigt la mauvaise gestion de cette question par les responsables de la régie des eaux. Ils affirment que dans les deux communes de la ville, il y a des quartiers qui ne sont pas desservie en eau potable depuis plus de 5 ans maintenant, avec toutes les conséquences socio-sanitaires. Ils en appellent à la conscience des autorités compétentes pour remédier à cette situation. L'un d'eux, Jules Ngeleza, explique au micro de Gabriel Ouaménia.
La déclaration est consécutive à la problématique de la pénurie d'eau potable dans les deux communes de la ville de Goma, à savoir la commune de Goma et la commune de Karisimbi. Pourquoi ? Parce que nous avons certains de nos quartiers qui viennent de passer autant de mois sans être desservis en eau potable.
Combien de mois ?
On est en train d'aller à peu près à 5 ans, parce que je prends comme l'exemple du quartier Himbi, le quartier Katine, les quartiers Ekasika, Katoi, Majengo, Mabanga et partout ailleurs, ce sont les quartiers qui jusque-là ne sont même pas desservis en eau potable, pendant qu'il y a des stations de pompage et de captage qui sont au niveau de la ville. Il y a des réservoirs, je peux citer celui du Mogoma, les réservoirs de Bouchara au niveau de Nyiragongo. Mais vous imaginez par exemple dans l'heure de santé de Mont Carmel, on est en train d'enregistrer des cas de choléra. J'ai dit
Actualité internationale.
Après les Panama Papers en 2016, les Paradise Papers en 2017, les Mauritius Leaks en 2019 et les Luanda Leaks en 2020, voici les Pandora Papers. Le consortium international des journalistes d'investigation relève avoir découvert que 336 responsables politiques dans le monde auraient dissimulé des fonds dans des sociétés offshore et des paradis fiscaux afin d'échapper aux impôts. Parmi les responsables politiques incriminés, 43 sont des Africains. Montpellier s'apprête à accueillir un sommet Afrique-France au format inédit. Pour la première fois depuis 1973, les chefs d'État n'ont pas été invités à ce rendez-vous politique. Ce sont des jeunes d'Afrique et de la diaspora, acteurs du monde de l'entreprise et de la société civile, qui ont été conviés à venir le 8 octobre à Montpellier pour faire part de leurs réflexions sur les relations entre la France et l'Afrique.
L'invité.
4 octobre 2014, 4 octobre 2021, 7 ans après ce qu'ils considèrent comme les débuts des massacres des civils dans la région de Béni, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme, CEPADO, exprime sa consternation. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, cette organisation se désole du drame humain que cause l'activisme de groupes armés dans cette partie du pays. Omar Kavota, directeur exécutif du CEPADO, est notre invité. Il s'entretient avec André Kitenge.
Maître Omar Kavota, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rendu publique une déclaration à l'occasion du 7e anniversaire de ce que vous appelez la série des massacres des civils perpétrés par les ADF MTM dans la région de Béni. Pouvons-nous en savoir plus?
Effectivement, à l'occasion de ce 7e triste anniversaire, notre organisation déplore que, à la suite de massacres perpétrés par les terroristes ADF-MTM, au moins 3750 civils ont été sauvagement tués et près de 1800 autres kidnappés dans différents champs, villages et agglomérations. Au moins 3430 maisons ont été incendiées, 125 véhicules incendiés sur les axes routiers, 130 écoles et structures médicales pillées ou détruites par ces terroristes. Et c'est une situation qui affecte pratiquement la paix et la sécurité. Nous sommes tellement préoccupé considéra que ces massacres sont partis de deux villages, à savoir Mukoko et Kisiki, et ces massacres ont embrasé tout le territoire avant de s'étendre sur des territoires voisins, notamment des territoires de Mambasa, d'Irumu, et donc après avoir embrasé l'ensemble du territoire de Beni.
Vous continuez à appeler la population à soutenir les FRDC, mais aussi l'État congolais à travers l'État de siège. C'est quel type de soutien parlez-vous concrètement?
Nous voudrions appeler la population, comme jamais auparavant, à collaborer avec les animateurs de l'État de siège. Parce que cet État de siège qui a été institué par l'autorité pour être une réponse contre ces mâles que nous avons endurés pendant 7 ans. Nous voudrions que cette population dénonce les complicités avec l'ennemi et se désolidarise de cet ennemi, à savoir les ADF-MTM. Nous voudrions également que les uns et les autres appuient les FRDC, appuient la MONUSCO dans les renseignements et communiquent positivement sur les actions ou les efforts consentis par l'autorité, de manière à ce que nous soyons ensemble contre l'ennemi commun qui est l'ADF-MTM, un ennemi dont le terrorisme est avéré.
L'un des moyens mis en place par le gouvernement congolais pour juguler cette insécurité, c'est notamment l'état de siège. Quelle est la position de votre organisation, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, face à cet état de siège?
Il faut rappeler que lorsque les États-Unis d'Amérique, à travers le département d'État, ont qualifié l'ADF-MTM de mouvement terroriste le 10 mars dernier au niveau du CEPADO, au lendemain de cette qualification par les États-Unis de l'ADF-MTM comme mouvement terroriste, nous avions suggéré à l'autorité congolaise de pouvoir décréter un état de siège pour s'approprier les conclusions de ce que les États-Unis ont donné comme qualificatif s'agissant des ADF. Et lorsque le chef de l'État a signé au mois de mai l'ordonnance instituant l'état de siège, le CEPADO a estimé que c'était une réponse à sa demande. Et c'est pourquoi notre organisation soutient totalement l'état de siège. Et nous voudrions que tout le monde soutienne cette initiative sans hypocrisie.
Quel appel lancez-vous aux hommes politiques pour essayer de mettre fin à cette insécurité dans la région de Beni?
Il est temps que les acteurs politiques soutiennent de manière engagée cet état de siège. 7 ans de tumulte, c'est déjà trop. On ne peut plus encore tergiverser sur l'identité de l'ennemi. On ne veut plus soutenir d'une manière l'ennemi par notamment des discours d'intox, de diabolisation gratuite de FRDC ou de désinformation. Nous voudrions que nos acteurs politiques sachent ce qu'ils veulent, sachent ce que la population souhaite. Et aujourd'hui, la population souhaite la paix et la sécurité. Et si cette paix et cette sécurité passent par cette initiative courageuse, quel état de siège? Nous voudrions que nos politiciens accompagnent l'état de siège. Que nos politiciens ne s'érigent pas en obstacle de l'état de siège. Qu'ils ne soient pas ceux qui vilipendent jour et nuit les animateurs de l'état de siège sans apporter la moindre alternative qui soit la plus appropriée. Nous disons que les acteurs politiques, les élus provinciaux, les élus nationaux et ceux qui sont dans les institutions devaient franchement soutenir les animateurs de l'état de siège, accompagner les animateurs de l'état de siège en évaluant certainement ce qui est en train d'être réalisé et en apportant de leur contribution par une critique constructive pour que nous puissions ensemble réussir cet état de siège.
Maître Omar Kavota, je vous remercie.
Merci à Radio Okapi.
Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.